Et voilà. Alors, chers auditeurs, nous reprenons la suite de notre émission d'hier, qui va continuer à se développer dans les réflexions politiques et sociologiques qu'elle a introduites. Alors, nous avons hier entendu notre éminent collègue Jean-Luc Cornel de Boissaison qui nous a raconté ses péripéties invraisemblables. J'ai eu beaucoup de réactions de gens qui m'ont appelé en disant « mais c'est pas possible, mais c'est incroyable, mais enfin c'est stalinien, c'est un procès stalinien, c'est invraisemblable ». Les gens n'en croyaient pas leurs oreilles. Et c'est la réalité dépasse la fiction. Alors nous avons avec nous Jean-Louis Arouel, toujours Marc de Staël et Bérénice Tournafond, qui vient écouter également et participer à cette émission. Donc merci Jean-Luc Cornel de Boissaison d'être parmi nous. Merci Jean-Louis Arouel. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rencontrés.
Bien des fois.
Bien des fois, vous connaissez.
Bien des fois.
Bon. Et donc nous avons montré hier quelque chose. C'est une véritable persécution contre les gens qui ne partagent pas les valeurs entre guillemets de ceux qui sont au pouvoir. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a qu'on vous a sanctionné et destitué, c'est que vous avez porté atteinte aux valeurs du service public, mais on ne sait pas du tout ce que c'est que les valeurs du service public. Je ne sais pas si vous critiquez les grèves à la SNCF, vous portez atteinte aux valeurs du service public. Hein. Si vous critiquez les retards du métro ou les dysfonctionnements du téléphone, vous portez atteinte. Si vous critiquez le gouvernement, vous portez atteinte gravement vous discréditez ceux qui sont à l'origine du service public. Ça ne veut absolument rien dire.
J'aurais même tendance à dire que ceux qui portent atteinte aux valeurs du service public, ben, ce sont ceux qui, justement, de manière autoritaire, dictatoriale et extrêmement grossière son fonctionnement au nom de leurs caprices politiques, ouais, ou autres. Et ayant vécu moi-même, dans les années 1980, les grandes grèves qui ont correspondu aux protestations des gauchistes contre la réforme de Vaquet, je veux dire que j'ai toujours éprouvé une admiration pour le courage dont avait fait preuve Jean-Luc Cornel de Boissaison. Et je me suis toujours dit qu'au fond, ce qu'il avait fait, c'est ce que j'aurais dû faire à l'époque, ce que je n'ai pas fait. Quand des gauchistes ont envahi mon amphithéâtre avec un porte-voix, alors il n'y avait pas, c'était pas au point de ce qu'il lui a connu, mais quand des gauchistes ont envahi mon amphithéâtre avec un porte-voix, ont couvert ma voix, m'ont empêché de parler, à un moment donné, il y a un rapport de force. Et donc, les étudiants de l'amphithéâtre, c'était à la fac de droit de Poitiers. Et évidemment, les gens en question n'étaient pas du tout des étudiants de la fac de droit de Poitiers. C'était des gens de toutes les autres disciplines qui venaient porter la contestation dans la faculté de droit. C'était sur le campus, donc il y avait d'autres disciplines à proximité. Eh bien, j'ai eu un sentiment de tristesse, un sentiment d'échec et même un sentiment de honte à quitter comme ça mon amphithéâtre sans rien pouvoir faire. Et j'ai toujours éprouvé beaucoup d'admiration et beaucoup de respect pour ce qu'il avait fait, lui. Et c'est lui le courage de faire, lui.
Et d'ailleurs, c'est Voltaire qui a dit le propre d'un héros est d'être persécuté. Alors, voyez, à votre corps défendant, vous êtes un héros. Et un jour, justice vous sera rendue, mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Enfin, notre Seigneur Jésus-Christ a connu bien pire.
Alors, j'ai moi-même un de mes héros sur votre plateau, puisque Jean-Louis Arouel est pour moi un maître depuis toujours, qui a accompagné ma carrière depuis ce qu'on appelait le DEA. Ouais. Et voilà, je suis donc très heureux de le retrouver ce soir. Tenter de rendre hommage à celui qui est aussi un maître vestimentaire, oui, comme vous le voyez. Et je voudrais dire, par rapport à ce que disait Jean-Louis à l'instant, que dans ce qui m'a été reproché, c'est précisément d'avoir porté atteinte, finalement, à une sorte de privilège de l'extrême-gauche.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et ce que nous avons tous connu, qui est une atteinte aux libertés universitaires dont nous parlions hier, parce que c'est aussi une liberté universitaire de pouvoir avoir une continuité du service public universitaire, pour les étudiants de pouvoir étudier, puisque comme Jean-Louis le rappelait à l'instant, ce sont chaque fois des étudiants extérieurs, en fait, à nos facultés. Et puis, c'est également la possibilité, au fond, pour le cœur idéologique, et c'est le but de l'émission où Jean-Louis Aruel va nous éclairer. Quand on dit que j'ai porté atteinte aux valeurs du service public, en fait, on comprend que au cœur, finalement, de ces valeurs, au cœur peut-être implicite, il y a une certaine idéologie qui doit avoir le droit d'intervenir,
c'est ça,
y compris par la violence, ouais, quand elle le souhaite. Et là, il y a un continuum que je pense que nous allons éclairer aujourd'hui.
Oui, et j'aurais tendance à dire sur cette ligne que c'est au cœur corrompu,
oui,
des valeurs de ces...
Bien sûr.
Ouais, ouais.
Alors, bien sûr.
J'ai parlé avec un syndicaliste de Paris 12 tout à l'heure, qui est quelqu'un qui d'ailleurs a une action politique locale, et il m'a promis d'écouter l'émission d'hier. Et il m'a dit, mais si, au fond, c'est très clair, si Jean-Luc Cornel de Boissaison avait été de manière symétriquement inverse, membre de LFI, et s'il avait chassé avec violence des militants fascistes, néo-fascistes ou néo-nazis ou d'extrême droite, ou dit d'extrême droite, il aurait eu, évidemment, il n'aurait jamais été poursuivi, il aurait certainement eu une promotion dans sa carrière, et il serait maintenant professeur aimé et professeur en classe exceptionnelle, certainement.
Oui, oui.
Donc, en fait, il y a deux points de mesure. Il y a deux points de mesure. Et on, comme je l'ai dit hier, on ne vous tue plus physiquement comme à l'époque de Robespierre ou de Danton ou de Saint-Just, mais on vous tue socialement et financièrement. Voilà. Et en fait, nous sommes aux mains d'une secte. Et là encore, ça va être très intéressant d'interroger Jean-Louis Aruel, parce qu'il est en train de préparer un nouvel ouvrage sur cette évolution dont il a réussi à trouver les traces dans l'histoire du christianisme. En fait, l'idée de Jean-Louis Aruel, mais il va l'expliquer mieux que moi, c'est que la pensée progressiste, comme on l'appelle, n'a rien de révolutionnaire en réalité. Elle dérive d'hérésie du christianisme, la glose et le binénarisme. Puisqu'on trouve dès le IIe siècle après Jésus-Christ, avec Marcion, des choses qui sont singulièrement modernes et qui rappellent l'époque contemporaine. Et donc, c'est mon idée de toujours, c'est une secte qui a pris le pouvoir. Et ce que dit Mathieu Bock-Côté, il dit « la gauche n'est pas une doctrine parce qu'elle est fondée sur des postulats faux, elle est remplie d'absurdités et de contradictions, c'est une force religieuse qui va toujours plus loin ». C'est une fuite en avant, ça n'est pas une doctrine. Et d'ailleurs, elle est tellement peu une doctrine qu'elle se livre à des métamorphoses périodiques, c'est-à-dire qu'il y a des métastases qui sont toujours différentes. Alors au début, c'est le démocratisme, c'est le peuple souverain, voilà, la volonté générale, qui n'a jamais existé évidemment. Dans un deuxième temps, après, c'est le prolétariat, c'est le socialisme, la lutte des classes, l'exploitation de l'homme par l'homme, la société sans classe, le paradis sur terre. Et puis après, c'est le tiers-mondisme. L'homme blanc, méchant et capitaliste va être balayé par les bons migrants. Et puis, comme après, ça présente aussi quand même des inconvénients, cette doctrine, et bien alors après, c'est la Terre elle-même est victime de l'homme blanc capitaliste et hétérosexuel. Mmh. Elle est victime, et c'est l'écologisme fanatique. Donc c'est comme je donne toujours l'image d'une pierre jetée dans un lac, avec des cercles concentriques, avec toujours cette force quasi démoniaque qui est à l'origine, et c'est ce que pense aussi notre ami Mardi Rossian, hein, puisqu'on a parlé avec lui. Alors, cher Jean-Louis Aruel, est-ce que vous pouvez nous parler de vos récentes découvertes et de vos travaux en cours ?
Très volontiers. Ça me fait vraiment très plaisir d'être là parmi vous et que mon ami Jean-Luc Cornel de Boissezon soit également présent sur cet écran où je vois son visage avec grande joie. Alors, je vais vous dire... J'ai enseigné l'histoire des idées politiques, et j'ai été étudiant en histoire des idées politiques, à la faculté de droit, à Sciences Po. Ensuite, j'ai enseigné moi-même l'histoire des idées politiques pendant quelques années. J'ai lu à peu près tout ce qui existe en matière de manuel sur la question. Et je suis rétrospectivement effaré de n'y avoir jamais vu le mot gnose ni le mot millénarisme. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, il y a une exception. C'est ce très beau et énorme manuel de Philippe Nemo, aux Presses universitaires de France, qui a maintenant une vingtaine d'années, où c'est le premier qui parle de millénarisme et qui établit un rapport entre le millénarisme et le communisme, et qui qui montre des cheminements qui vont de l'un à l'autre. Mais c'est lui le premier. En revanche, dans ce manuel de Philippe Nebot, on ne trouvera rien sur la gnose. Étonnamment, on ne trouvera rien sur la gnose. Lui qui est tellement novateur, tellement sagace, tellement au fait de tout, eh bien, il a éludé le problème de la gnose. Comme je veux dire, je l'ai moi-même éludé involontairement. Lorsque j'ai publié en 2000, lorsque j'ai écrit entre 2005 et 2012, lorsque j'ai écrit ce travail qui a représenté pour moi plus de temps et plus d'efforts et plus de lecture que ma thèse, d'ailleurs ce livre, Le vrai génie du christianisme, qui partait d'une idée, d'une intuition de Fourastier, qui disait qu'au fond, il fallait expliquer le développement de l'Occident et sa supériorité historique, même si maintenant sa supériorité est concrètement
très concurrencée
et effondrée, mais et même effondrée par endroits. D'un autre côté, si les autres peuvent nous concurrencer, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre aussi, c'est qu'on leur a donné le progrès technique avec les clés en main. Ouais, alors que l'Occident, lui, l'a inventé, il est le seul à l'avoir inventé. Ouais, c'est ça. Et les autres, actuellement, les Chinois avaient tout ce qu'il fallait, pour le progrès technique, mais leur animisme, leur religiosité animiste d'État, magie animiste d'État, les empêchait de concrétiser leurs extraordinaires découvertes. Songeons que vers 1100, il y avait en Chine des hauts fourneaux qui marchaient très, très intensément, que la métallurgie chinoise était en train de se développer. Donc vers l'an 1100, ce qui est incroyable, eh bien, au nom de l'animisme d'État, les mandarins de la cour ont décidé que ça dérangeait les esprits, et on a fermé tout ça.
C'est très très proche de l'écologisme aujourd'hui.
C'est l'écologisme. Actuellement, on a introduit l'animisme. On a introduit l'animisme actuellement en Occident. Alors, Jordan Lelsol montre ça aussi assez bien dans un beau petit livre très efficace qu'elle appelle « La fin du christianisme », où elle montre que on est actuellement dans un système de panthéisme, dans un système religieux de panthéisme, et que ce panthéisme, c'est le retour du panthéisme antique, qui a été éclipsé par le christianisme et ses conséquences, « Entsammlung der Welt », le désenchantement du monde. Schiller proteste contre ça. Les romantiques allemands l'attribuaient à Kant et aux Lumières, mais en réalité, le « Entsammlung der Welt », il remonte beaucoup plus haut, c'est le christianisme.
Ouais.
C'est le christianisme. Chaucer, le poète anglais Chaucer au XIVe siècle, explique que les bonnes femmes n'ont plus peur quand elles vont à la rivière laver leur linge, parce que le prêtre et le moine avec le robe bénite ont fait partir tous les kobolds et tous les petits nains et les lutins qui hantaient les buissons. Et que maintenant, c'est un monde pacifié, c'est un monde désenchanté. Et c'est ce monde désenchanté que actuellement on est en train d'abandonner, de renier, et de détruire.
D'où la volonté d'ailleurs d'attribuer à un fleuve une personnalité morale, ce qui est une absurdité totale.
C'est de l'animisme.
Ou à des animaux aussi, la personnalité morale des animaux dont on parlait hier avec Aram Mardirossian.
C'est de l'animisme.
La volonté de donner à ça. Alors d'ailleurs, après, il y aura un problème de discrimination, parce que si on doit donner la personnalité morale aux moustiques, à la puce et à la chenille, ça va être assez compliqué finalement.
Mais vous savez que pour la mouche tsetse, qu'on éradique, comme qu'on a beaucoup éradiqué depuis les années 60, d'abord avec le DDT, mais le DDT ne peut pas être totalement efficace parce qu'il y a les œufs, il ne peut rien contre les œufs. Donc actuellement, on a inventé une technique extraordinairement efficace qui est le lâcher de mouches stériles. C'est-à-dire que les mouches ont l'illusion de s'accoupler, elles s'accoupent, mais ça ne produit rien parce qu'on a lâché des millions de mouches stériles. Et donc, par exemple, dès la fin des années 1900, à Zanzibar, il n'y avait plus une seule mouche tsetse. Il y avait des voix qui se sont élevées en Afrique qui protestaient au nom de la biodiversité, du respect de la biodiversité contre cette éradication.
Du bien-être de la mouche tsetse, du bien-être animal.
Or, là, il faut dire que cette exigence du respect de la biodiversité, elle est de nature religieuse.
Oui, oui.
Elle est nature religieuse, indiscutablement.
Alors peut-être faudrait-il rappeler à nos auditeurs, qui ne sont pas aussi spécialistes que nous de ces questions, en quoi consiste la gnose et en quoi consiste le millénarisme, qui sont deux hérésies du christianisme. Parce qu'il faut voir que la pensée progressiste, c'est ce que Chesterton a appelé les idées chrétiennes devenues folles. C'est-à-dire que nous avons la pensée chrétienne qui postule une transcendance du divin avec des règles qui échappent à la volonté de l'homme. Et il y a ensuite une pensée religieuse que je qualifierais pour ma part de dénaturée, et qui est une hérésie, et qui détourne la pensée chrétienne à d'autres fins. Alors, si vous me permettez, messieurs, cette petite comparaison médicale, vous avez tous entendu parler d'une hormone très connue qui s'appelle la testostérone. Elle est très utile puisqu'elle permet la reproduction et elle permet, je dirais, l'activité virile. Mais on sait qu'avec une certaine décadence de l'organisme, elle se transforme en paratestostérone. Or, la paratestostérone est un produit dangereux puisqu'elle est à l'origine du cancer de la prostate. Et la paratestostérone est une dénaturation de la testostérone. Donc, je suis désolé de faire cette analyse médicale qui va beaucoup choquer les gens de gauche, s'il y en a par hasard qui écoutent notre radio, mais malheureusement, la pensée progressiste, c'est une dénaturation des idées chrétiennes en supprimant la divinité transcendante qui est Dieu et en expliquant que l'homme va prendre la place de Dieu. Donc, à chacun sa vérité, on est dans la post-vérité, tout est affaire de point de vue, et finalement, on aboutit à une sorte de loi du plus fort, c'est le plus malin et le plus violent qui l'emporte, parce que c'est lui qui impose sa vérité, et puis ça va pas plus loin. Mais bon, ça se termine dans une voie sans issue. C'est un piège diabolique. Alors, peut-être il faut reparler de la gnose et du millénarisme à nos auditeurs.
Alors, parlons effectivement de millénarisme et de la gnose. Alors, le millénarisme... c'est une protestation, je dirais, c'est une protestation contre le fait que Jésus a déplacé le messianisme juif de la terre vers le ciel. Que le royaume messianique promis, eh bien, vous savez que beaucoup de ceux qui suivaient Jésus attendaient de lui qu'il mette à la porte les Romains. Ils attendaient de lui que Jésus soit une sorte de chef de guerre, de Mahomet, un chef armé, botté, casqué et cavalier qui mettent les Romains à la porte. Et lorsque, après la mort de Jésus, par exemple, les pèlerins d'Emmaüs sont profondément déçus parce qu'ils ont le sentiment que Jésus a raté sa mission. Ouais. Il n'a pas accompli ce qu'il devait faire. Et il va y avoir, dans le christianisme, cette nostalgie, cette idée d'une mission non achevée. Et ce déplacement du royaume messianique de la terre vers le ciel n'est pas accepté. On veut un royaume terrestre. Et on pense que Jésus, quand il reviendra, eh bien, ça sera pour fonder la parousie, ça sera pour fonder un royaume qui va durer 1000 ans, et pendant lequel il y aura une prospérité. En fait, tout ce que le royaume messianique avait comme promesse chez les prophètes, eh bien, est transposé au royaume millénariste, et même encore augmenté. Et tous les chrétiens, pendant deux siècles, tous les chrétiens étaient plus ou moins millénaristes. Saint Irénée, évêque de Lyon, était millénariste. Saint Papias, évêque d'Hierapolis, était millénariste. Ils étaient tous millénaristes. Et Saint Papias explique, par exemple, que dans le royaume millénaire de Jésus, les grappes seront tellement lourdes, tellement énormes, qu'elles auront 1000 grains, elles pendront au sol. Ça fait penser à ce tableau, dans ce célèbre tableau de Poussin qui représente l'automne, où on voit deux hommes avec une perche sur l'épaule et qui portent une gigantesque grappe énorme qui descend presque jusqu'au ciel, jusqu'au sol. C'est l'âge d'or.
C'est ça.
Donc c'est l'âge d'or. Et ce millénarisme chrétien, eh bien, il s'est d'ailleurs rapproché dans la patristique, dans les écrits des pères, on voit très bien le rapprochement qu'ils font avec l'âge d'or. Donc il va y avoir un royaume de 1000 ans qui sera miraculeusement... bon, agréable, fécond, avec une abondance prodigieuse. Et ça a été la croyance des chrétiens. Alors, c'était un peu naïf, mais c'était pas méchant. Et au IVe siècle, il s'est greffé là-dessus, sur ce millénarisme, sous l'effet de l'hérésie donatiste, il s'est créé l'idée de violence et de violence révolutionnaire. Donat, parce qu'il y a aussi un Saint Donat. Parce que quand j'avais visité la Yougoslavie, j'avais 15 ans, j'ai constaté qu'à Zadar, à Zara, il y avait une église, une très belle église d'ailleurs, qui subsistait de tous les bombardements qui avaient complètement ravagé cette ville de la côte de la Dalmatie italienne. Eh bien, il y avait une église Saint Donat. C'est pour ça que je dis Saint Donat par réminiscence, mais ce n'est pas le même Donat, c'est un autre Donat. Eh bien, donc ce Donat, un évêque numide, va développer une théorie qui va être une théorie avec une dimension théologique et une dimension sociale. Et cette dimension sociale va se greffer au millénarisme et provoquer des troubles épouvantables en Afrique du Nord. Il y a des bandes de donatistes qui attaquent les fonctionnaires romains,
qui attaquent les facultés de droit.
Parce qu'en fait, l'idée des donatistes, si vous voulez, l'idée des donatistes, c'est que l'Église n'est plus pure. Et ce sont les purs. C'est le robespierrisme, déjà. La pureté, le syndrome de la pureté. Alors, les donatistes disent, voilà, cette Église, elle n'est pas pure, parce qu'il y a ceux qui, pendant les persécutions, ceux qui ont été un peu mous, un peu tièdes, voire carrément lapsis, eh bien, on les réintègre, on leur donne des pénitences, mais on les réintègre, on ne devrait jamais les réintégrer. Donc, vous êtes une Église pourrie, messieurs, une Église pourrie. Et cet empire romain, cet empereur romain qui vous protège et qui vous organise le concile de Nicée, il est tout aussi pourri que vous. Vous êtes tous des pourris. Et nous sommes les purs, les seuls purs, les uniques purs. Ça, c'est l'aspect théologique. Et là-dessus, il y a l'aspect révolte sociale. Pendant plusieurs décennies, l'Afrique du Nord romaine, elle est à feu et à sang à cause des donatistes. Et Saint-Augustin, comme on le sait, était un évêque numide, un évêque d'Afrique du Nord. Il va réfuter et le donatisme et le millénarisme. Et à ce moment-là, le millénarisme sort de l'histoire de l'Église. Alors, il n'est pas condamné. Étonnamment, il n'est pas condamné comme hérésie. Il est simplement abandonné. Il est abandonné. Et d'ailleurs, on va faire disparaître de tous les écrits de Saint-Irénée, parce que Saint-Irénée continue à être très respecté. On fait disparaître des écrits de Saint-Irénée tout ce qui concerne le millénarisme. Il n'est plus fréquentable, le millénarisme. Et on ne peut pas le condamner. Il y a eu tellement de saints qui ont été millénaristes. Tout le monde a été millénariste. On ne peut pas condamner le millénarisme.
Alors
on l'abandonne.
Je vais juste une observation, c'est que notre collègue Rémi Prudhomme a récemment écrit que l'obsession de la pureté de l'atmosphère aujourd'hui était une sorte de résurgence de l'obsession de la pureté raciale chez les nazis ou l'obsession de la pureté idéologique chez les révolutionnaires.
Oui, c'est intéressant.
C'est la même idée.
C'est l'idée de pureté. C'est ce que j'appelais quand je faisais le cours de troisième année d'histoire des institutions publiques, quand je parlais de Robespierre et de Saint-Just, qui n'ont que le mot pureté à la bouche. Dans leur discours, pur, il n'est pas pur, l'administration n'est pas pure. La pureté, ça consiste pour l'État, pour le gouvernement révolutionnaire. Il y a une théorie du gouvernement révolutionnaire qui avait été très bien analysée par mon maître Gérard Sautel, qui consiste, l'administration est impure, elle est corrompue. La pureté, ça consiste à frapper l'ennemi.
Ah oui.
La pureté, c'est le glaive. Seul le glaive est pur.
Alors ça, c'est pour le millénarisme.
Le millénarisme sort de l'histoire de l'Église, mais il va continuer souterrainement pendant tout le temps que va durer la chrétienté, et il va ressortir sous forme d'éruptions violentes au Moyen-Âge, à l'époque moderne, comme par exemple les anabaptistes de Münster, comme la guerre des paysans, comme avant cela en Angleterre au XIVe siècle, la révolte de Wycliffe et John Ball qui dit que pour que l'Angleterre soit heureuse, il faut établir le communisme et tuer tous les seigneurs, tous les gens de loi et tous les juges. Donc voilà, il y a des éruptions violentes et puis ça aboutit, le millénarisme aboutit à Marx. Il aboutit à Marx. Marx, le dernier grand prophète millénariste religieux, c'était un ouvrier tailleur allemand qui s'appelait Weitling, Wilhelm Weitling. Alors, c'est extraordinaire. Il dit, voilà, Jésus n'a pas compris, il était trop près de l'événement. Le vrai royaume de Dieu, il n'est pas au ciel, il est sur terre. Et c'est la République communiste, et on va y arriver par la révolution prolétarienne et la dictature prolétarienne.
Alors, ce que fait observer...
Tout ça, c'était...
Alors, ce que fait observer François Gervais, qui est un physicien qui réfute totalement la théorie de l'origine anthropique du réchauffement actuel, il dit, l'objectif... zéro carbone, c'est un objectif qui est d'ailleurs absolument impossible à atteindre, parce que c'est totalement utopique, puisque les océans produisent énormément de carbone, la nature en produit énormément, et si cet objectif pouvait être atteint, la vie disparaîtrait de la Terre. Car le carbone est l'aliment des plantes.
Bien sûr.
L'aliment des plantes, sans carbone, si on descend en dessous, je crois, 160 parties par million, ou un peu moins, 140, la vie disparaît de la Terre. Donc, c'est une pensée suicidaire. Et cette obsession du net carbone zéro, qu'on voit partout, ben, ça reprend de nouveau cette idée que si on atteignait la neutralité carbone ou zéro carbone, ça serait le paradis sur Terre alors qu'il n'y aurait plus de vie. C'est la même démarche intellectuelle, on la retrouve.
Et alors le plus de vie me ramène à la gnose.
À la gnose, voilà.
Alors le plus de vie, la gnose c'est extraordinaire parce qu'au fond c'est l'anti-vie. La vie est un mal.
Ah, voilà.
La vie est un mal. Alors, ça me rappelle le vieux Baudelaire, vivre est un mal, c'est un secret de tout ce qu'on vit, etc. Bon. La vie est un mal, pourquoi ? Parce que pour la gnose, alors la gnose, ce sont des sectes qui ont développé des maîtres, beaucoup en Égypte, en Asie mineure. Alexandrie était très très importante pour la gnose. Des théories selon lesquelles le monde est mauvais. Le monde est mauvais, la création est mauvaise. La création, c'est une erreur. Ce que la Bible présente comme un bien, et il vit que cela était bon, etc., c'est faux. Celui qui a créé le monde, la matière, la terre, les arbres, tout ça, les êtres vivants, c'est un être, dans le meilleur des cas, crétin, et dans le pire des cas, malfaisant. Un démurge imbécile, et une sorte de caliban insupportable. Bon. Pour la gnose, le monde primitif était un monde spirituel. Un monde spirituel peuplé d'êtres spirituels. L'un de ces êtres spirituels a laissé... ce monde était habité par le feu divin central. Tout ça est très proche également de l'Extrême-Orient.
Ouais.
Une sorte de feu divin central. Et des parcelles de ce feu divin central, le démurge, qui était lui-même un des habitants de ce ciel, de ce septième ciel, de ce monde, de ce supramonde, ils sont tombés dans la matière. Et ça, c'est le drame absolu. C'est le drame absolu pour les gnostiques, parce que des étincelles de Dieu, des fragments du divin, sont enfermés dans la matière, sont enfermés notamment dans les corps humains. Et le corps humain, c'est le mal, la matière, c'est le mal. Tout ce qui va ensemble, le temps, la matière et le temps.
Et la procréation.
Évidemment.
Évidemment.
Le pire, puisque la procréation prolonge l'enfermement de l'homme dans la matière.
De la condamnation de la distinction homme-femme.
Ben aussi.
Qui est une odieuse discrimination. Comme
aussi, puisque de toute façon, les parcelles de Dieu, elles ne sont pas sexuées, qui sont dans les corps humains. Donc ces parcelles ne sont pas sexuées. Donc, n'étant pas sexuelles, elles sont interchangeables.
Évidemment.
Et comme la gnose admet également le principe, repose également sur un principe de transmigration des âmes, comme on peut transmigrer très facilement dans un corps tout à fait différent, d'homme, de femme, et même pour certaines croyances d'animaux ou même d'éléments inanimés, tout est pareil. Et ça, c'est ce que certains appellent le mémisme ou la mêmeté.
Bah, c'est la non-discrimination.
C'est ça. Et l'interchangeabilité
universelle
de tous les êtres.
Ce que d'ailleurs nous voyons en permanence, il suffit de regarder n'importe quelle publicité dans la rue ou dans la presse pour voir qu'on essaye de nous faire croire que tous les êtres sont interchangeables. C'est en permanence. Moi je le décrypte, je vois la manœuvre qui est derrière, mais les gens pensent que c'est le bien qui s'exprime, que c'est le progrès, que c'est l'avenir de l'humanité. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'interchangeabilité. Et il y aura des conflits, en revanche. Et eux, ils sont bien réels, les conflits.
Exactement.
Et ça, il ne faut surtout pas le dire. Et ceux qui le disent, bien sûr, sont excommuniés. Alors, la gauche est constituée donc, de ces deux grandes hérésies. Et elle reprend du poil de la bête, si j'ose dire, au XIXe siècle, à la faveur des bouleversements de la société industrielle qui déstabilise les anciennes structures...
Je dirais aussi sous l'effet du romantisme allemand.
Ouais.
Le romantisme allemand a une immense responsabilité dans la diffusion de la pensée gnostico-millénariste.
Ouais.
Alors, je reviens à la gnose et au millénarisme. Donc, l'objectif de la gnose, c'est de supprimer la matière, que la matière disparaisse, et que des parcelles divines rejoignent le feu divin central, et que le monde redevienne spirituel. Donc l'objectif de la gnose, c'est la disparition du monde.
Alors c'est pour ça que Éric Zemmour avait écrit une chronique dans le Figaro il y a une dizaine d'années qui s'intitulait de Marcion, qui est un gnostique, à Bacron. Et il montrait qu'il y avait un continuum entre propos, les idées de Marcion au IIe siècle et les élucubrations de Macron.
C'était pour mon livre, Droite-Gauche n'est pas fini.
Voilà, et quand aujourd'hui Macron nous dit la plus grande des priorités, c'est pas faire baisser le prix du pétrole, c'est pas améliorer la qualité de vie des Français, c'est pas lutter contre les sécurités, c'est pas lutter contre la dette, c'est pas lutter contre l'immigration incontrôlable, c'est pas réformer des institutions pourries, vraiment pourries. Hein. Non, c'est pas ça. La plus grande priorité, c'est l'euthanasie. Alors là, comment est-ce que... Non mais c'est ça crève les yeux.
Oui.
L'euthanasie. Alors,
c'est la gnose, on est en pleine gnose.
Vous avez l'avortement d'un côté, vous avez l'euthanasie de l'autre, et entre les deux, vous avez aussi l'homosexualité qui peut jouer.
Alors, exactement.
J'ai rien contre les homosexuels, évidemment. Regardez, Léonard de Vinci était un homosexuel, César était homosexuel. Mais ils n'en faisaient pas un modèle social.
Ils étaient plutôt bisexuels. Le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris.
Oui, exact. Oui. Oui, il a quand même eu des enfants avec Cléopâtre, d'ailleurs. Dont Césarion.
Césarion. Alors, effectivement, tout ce que vous dites là, c'est la gnose. La gnose, elle interdit de procréer, c'est le pire des péchés, procréer.
Ouais.
Parce qu'on enferme une nouvelle âme dans la matière, une nouvelle âme de feu dans la matière. Elle est pro-avortement.
Bah, évidemment.
Elle est pro-avortement, elle réclame l'avortement. Elle le ritualise. Elle le ritualise et on communie. Quand on a avorté, on communie, il y a une communion, on communie avec les fragments de l'avortement et on dit « voilà la meilleure des Pâques ».
Et alors, c'est pourquoi j'entends souvent des jeunes gens dire « ah, surtout pas d'enfants, parce que le monde est tellement mauvais que ça serait un crime que d'enfanter ». Mais ça, on l'a entendu.
Mais bien sûr.
À la rigueur, un animal domestique, un chien peut-être, mais surtout pas d'enfant, hein, Bérénice, on l'a entendu, ça.
Le no-kids...
Pas longtemps, hein, on l'a entendu encore il y a très très récemment.
Le no-kids est absolument gnostique. Alors l'écologie sert de nouvel argument. Longtemps, ça a été l'idée que le monde est mauvais, et ensuite, ça a été l'idée qu'il fallait réduire l'impression carbone.
Voilà, c'est ça.
Et vous avez un livre qui a été écrit il y a une dizaine d'années par une Américaine qui explique que ne pas faire d'enfants, c'est être écolo sous les draps.
Oui, ça évite l'empreinte carbone. Alors, on ne s'est jamais d'ailleurs trop soucié de l'empreinte carbone des dinosaures, qui était certainement significative. L'empreinte carbone des océans, qui contiennent 60 fois plus de CO2 que l'atmosphère, ça n'a pas l'air de déranger grand monde. Les volcans, ils mènent leur vie. Mais alors nous, notre empreinte carbone, on va vous interdire de louer votre appartement ou de rouler en voiture, parce que on entre dans une, pour ce que j'appelle moi, une aliénation mentale à ciel ouvert.
Hein. Exactement, mais c'est indiscutablement cette affaire d'empreinte carbone.
Alors moi, j'ai une question, Jean-Louis. Est-ce que la drogue, l'enivrement, fait partie aussi de... Du rituel des gnostiques ou pas vraiment.
Alors là, effectivement, lors des, parce que sur le plan des rapports sexuels, il y a deux types de gnoses totalement opposés en apparence. Il y a ceux qui sont totalement abstinents et ceux qui sont totalement débridés. C'est l'un ou l'autre. Et les maîtres gnostiques comme Valentin, d'ailleurs, laissaient assez volontiers la liberté à leurs disciples de suivre l'une ou l'autre voie.
Ah oui.
On peut faire ce qu'on veut de son corps, rien ou tout, à condition de ne pas faire d'enfant. Ça, c'est la seule règle absolue, ne pas faire d'enfant. Pour le reste, on fait ce qu'on veut. Et dans les deux cas, on est dominé par le mépris et la haine du corps. C'est par mépris et par haine du corps qu'on ne fait pas d'amour. C'est par mépris et par haine du corps qu'on fait l'amour comme un abruti. Dans les deux cas, c'est la haine du corps et le mépris du corps qui dictent le comportement sexuel. Et dans certaines sectes, pas toutes, il y a des sectes, par exemple, on pratiquait l'homosexualité comme chez les pérates, ça faisait partie des rituels de la secte. À d'autres sectes où il y avait des grandes orgies, et ça c'était une orgie. Et d'après ce que j'ai pu lire, il est probable qu'on utilisait aussi des filtres
et on répandait des
aphrodisiaques dans les vins, etc.
Alors,
mais de toute façon, l'idéologie, même si on le rajoutait, l'idéologie était suffisante.
Mmh.
À un moment donné, pendant le banquet, chaque homme disait à sa femme, se levait et disait à sa femme, va avec un tel.
Ah oui.
Avec le frère. Le frère, ça. Et va avec le frère.
Alors, je pense qu'Epstein avait suivi des anciennements gnostiques.
Je crois que c'est un gnostique.
Oui, oui, c'est un gnostique. Mais on voit beaucoup de choses, même dans les faits divers actuels.
Alors, j'ajouterais...
Tel ou tel personnage public, on découvre qu'il était sous l'empire des drogues, qu'il se rendait à une soirée échangiste, qu'il était...
Alors, j'ajouterais, pour revenir à la gnose, que la gnose était également homosexualiste.
Ah oui.
Elle valorisait l'homosexuel, elle était très hostile à Yahweh parce qu'il avait frappé Sodome et Gomorre, et elle considérait qu'il fallait réparer cette erreur et ce crime. La gnose également valorise le criminel.
Ah, voilà.
Donc elle valorise le criminel, elle valorise Caïn parce qu'il a tué son frère Adam.
Mm-hmm.
Et il y a une secte qui s'appelait les Caïnites qui vénéraient Caïn, plus que tout autre, parce qu'il avait le premier. Parce que le gnostique est un révolté. Le gnostique est un révolté, c'est un insoumis.
La France insoumise.
C'est un insoumis. Le gnostique est un insoumis. Et alors, l'insoumission fondamentale, l'insoumission fondatrice, c'était de casser le carcan familial en tuant son frère.
Tiens, voilà.
Mm-hmm. Et donc, il y avait une vénération, il y a une secte, on appelait les Caïnites, une vénération de Caïn. Vénération qu'on trouvera d'ailleurs chez des gnostiques comme Baudelaire.
Ouais.
Race de Caïn, monte au ciel. Voilà. Vous rappelez ce poème de Baudelaire où il explique à la fin que la race d'Adam va être tuée et aller fumer la terre pendant que la race de Caïn va prospérer. Et une revanche de la revanche de Caïn, c'est très gnostique. Et j'ajouterai également que la gnose promeut la trahison. Aimer l'ennemi. Préférer l'ennemi.
Ah, oui.
Détester la société, détester sa société. Sa société, par définition, c'est le mal, puisque la société, déjà, est le mal en soi. Les règles sociales sont le mal, le droit est le mal, la politique est le mal. Donc, le gnostique est un révolté. Et lorsqu'il y a un gnostique qui s'appelle Marcion,
dont
vous parliez tout à l'heure, et lorsque Marcion... certains gnostiques faisaient beaucoup intervenir Jésus, mais ce Jésus est un Jésus falsifié. Et il faut dire que, vous savez, la gnose fonctionnait au deuxième siècle, les maîtres gnostiques fonctionnaient en parallèle et en concurrence avec les églises.
Ouais.
Et ils allaient souvent chercher leurs fidèles possibles.
À l'église.
Ils recrutaient à l'église. Donc il fallait leur tenir un discours analogue. Et Marcion officiellement se considérait comme chrétien. Simplement, son Jésus dit des choses totalement différentes. Lorsqu'il descend aux enfers, il va en sortir Caïn. Et il va en sortir les Égyptiens, les Sodomites, il en sort les Sodomites. Et il en sort les Égyptiens, parce que les Égyptiens sont les ennemis.
Ouais.
Et il y a tout un courant de la gnose qui conduit. Vous savez que les surréalistes étaient fondamentalement des gnostiques.
Ouais.
Le surréalisme est fondamentalement agnostique. D'ailleurs, André Breton, dans les années 50, a terminé comme grand illuminé. C'est un gnostique breton, fondamentalement et avant toute chose.
Alors, récemment, pardonnez-moi Jean-Claude, Jean-Louis, pardon, quelqu'un, je crois que c'est Flavio qui disait ça ce matin, il dit nous n'avons plus le culte de l'être suprême comme Robespierre, on est passé au culte de l'autre suprême, c'est-à-dire l'étranger divinisé. C'est un ami de mon fils qui dit ça. On le voyait hier, ce matin. Je sais plus. C'est lui qui a dit cette expression, le culte de l'autre suprême.
Je crois que c'est Jean Raspail qui disait big other.
Voilà, big other, c'est ça. Parce que l'autre, il est le rédempteur. Il est le nouvel homme qui va, alors que le blanc, le français, il est méprisable. D'ailleurs, le français n'a aucun droit. On lui passe devant. Ça n'a pas d'importance. L'étranger a beaucoup plus de droits, objectivement. Il a beaucoup plus de droits. Il a droit à l'aide médicale aux étrangers, des aides sociales, des logements gratuits, des téléphones gratuits, tout. Et c'est évident, Alors, donc on a quelque chose de fondamental. On va peut-être laisser notre ami Jean-Luc s'exprimer, parce que là, pour le moment, il écoute surtout. Mais il y a une étude britannique que je viens de vous transmettre, de la Société britannique de psychologie, qui vient de faire une découverte extrêmement intéressante et qui corrobore l'idée suivant laquelle le progressisme est une secte. C'est que plus vous allez à droite et à l'extrême droite, plus la pluralité d'opinions est grande. Plus vous allez vers l'extrême gauche, plus la pluralité d'opinions se restreint et jusqu'à devenir, et les opinions deviennent dogmatiques. C'est-à-dire que toute personne qui s'éloigne du dogme est excommuniée, et on parle d'ailleurs de déviationnisme. Et ça explique pourquoi n'importe quelle personne de centre-gauche ou de gauche, je sais pas, comme Alain Finkielkraut, par exemple, ou comme Michel Onfray, peut être accusé de fascisme du jour au lendemain, dès lors qu'il dit « bah là, vous allez trop loin ». Parce qu'à ce moment-là, il n'est plus dans le mouvement religieux. Parce que la gauche, comme dit Bocoté, n'est pas une doctrine. Elle est un mouvement irrépressible. Et qu'on ne peut plus arrêter. Et qui est d'ailleurs pas totalement incohérent, en réalité. Donc ça, c'est très intéressant. Cette étude, il faudrait l'étudier. Alors, on peut la trouver sur Internet. Elle est en anglais, mais on peut la faire traduire assez facilement. C'est la pluralité d'opinions en fonction des opinions de l'appartenance politique. Et il y a même un schéma que j'avais même enregistré, que je vous ai transmis, où on voit un diagramme, où on voit que c'est un entonnoir, en fait. Plus l'entonnoir vers la gauche, plus il est pointu, plus il va vers la droite, plus il est large. D'ailleurs, effectivement, j'ai toujours constaté que chez les gens de droite, il y a une très grande pluralité d'opinions divergentes, c'est ce qu'on disait hier. Il y a très grande pluralité d'opinions. Il y a des gens qui sont plutôt républicains, d'autres plutôt monarchistes, d'autres qui sont bonapartistes, d'autres qui sont pour une dictature, d'autres qui sont pour le libéralisme, d'autres qui sont pour le contrôle étatique, donc le colbertisme, d'autres qui sont au contraire pour la libre entreprise. Il y a de tout. J'aurais tendance à dire qu'il y a à droite toute personne qui n'est pas à gauche, finalement. Alors, Jean-Luc, voilà, on va vous laisser peut-être vous exprimer un petit peu après avoir écouté notre maître Jean-Louis Harwell.
Oui, j'apporterai peut-être deux références pour nos auditeurs et peut-être deux petites réflexions. En écoutant, effectivement, mon maître, le professeur Harwell, s'agissant de l'influence du christianisme sur l'épanouissement de la science, je recommanderais à nos auditeurs la lecture du livre d'Alexandre Kojève, le grand philosophe et notamment philosophe des sciences, éminent disciple de Hegel, comme on le sait, qui fut l'inspirateur notamment des prophéties sur la fin de l'histoire de Fukuyama. Alexandre Kojève a écrit au milieu du XXe siècle « La source chrétienne de la science moderne ». Développe dans tout un petit volume « La source chrétienne de la science moderne » de Kojève, analyse philosophiquement ce que Jean-Louis nous disait sur cette influence du christianisme sur la science qui contrebat tout à fait, et avec honnêteté, parce que Kojève n'était pas un homme de droite, hein, contrebat tout à fait la légende noire que les anticléricaux ont tissée sur un christianisme, une église systématiquement hostile à la science. Et puis une deuxième référence peut-être, toujours pour nos auditeurs, c'est d'aller lire La nouvelle science politique de Éric Voegelin, Éric Voegelin, si on le prononce à la française, qui a été l'un des premiers, c'est un Allemand réfugié aux États-Unis pendant le Troisième Reich, et qui a développé cette idée du gnosticisme en politique. Il a beaucoup influencé les conservateurs américains, notamment Robert Nisbet, qui a beaucoup parlé de cette dimension gnostique dans le messianisme de la gauche. Et ce sont des lectures complémentaires pour suivre les pistes de Jean-Louis. Et puis deux petites remarques simplement dans ce que le professeur Harwell nous apporte sur les origines religieuses du progressisme. Cette dimension religieuse, elle implique à la fois la question effectivement du fond idéologique messianique qui au fond fonctionne comme une sorte de courant souterrain qui a toujours été maîtrisé effectivement au sein de l'Église, notamment par l'élément romain et institutionnel de l'Église, et dont il est très intéressant qu'il réapparaisse chaque fois que le caractère institutionnel de l'Église, et on pourrait dire donc son tropisme romain, est affaibli. C'est le cas dans les hérésies, c'est le cas aussi dans l'hérésie, comment dirais-je, triomphante qu'a été le protestantisme, spécialement le calvinisme, qui débouche sur le puritanisme. Et donc, c'est très intéressant de revenir à la compréhension de cet élément qui délestait, ça a été évidemment dans l'histoire du christianisme, comment dirais-je, une question difficile et douloureuse et souvent soulevée entre l'élément institutionnel et romain et l'élément de prophétisme, en fait, n'est-ce pas, biblique. Et chaque fois, en fait, que son cadre romain est perdu, le caractère subversif, en fait, de ce prophétisme réapparaît. Et deuxième élément qui est très intéressant pour comprendre la gauche, c'est l'élément clérical, évidemment. Mais nous allons y revenir, c'est-à-dire le fait que c'est, comme le dit mon excellent collègue à l'ICEP, Jean-François Chemin, qui a fait un beau livre sur notre ami la gauche, il a inventé le néologisme de cléricature, et on va en reparler certainement au cours de l'émission. Ça explique à la fois le caractère oligarchique de la gauche, et puis ses méthodes inquisitoriales.
Oui,
voilà.
Oui, c'est vrai, les méthodes inquisitoriales, puisqu'on cherche toujours à connaître ce que la personne pensait au fond. On essaye de savoir si elle est sincèrement de gauche et sincèrement attachée à l'égalité. Alors la seule manière de couper court à ça, c'est de dire, écoutez, nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous sommes des ennemis idéologiques, inutile de chercher à me convaincre, je ne partage pas vos valeurs. Alors là, ils sont extrêmement embêtés. Alors, ils disent, vous êtes fasciste? Bah, je dis, bah oui, pourquoi pas. Mais de toute façon, il y a tellement de gens fascistes que ça ne veut plus rien dire du tout. Parce que les fascistes, tous les gens qui ne partagent pas votre point de vue. Donc, bon, bah voilà, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais je ne partage pas vos valeurs, un point, c'est tout. Et puis, moi, j'appartiens à d'autres, j'obéis à d'autres valeurs. Et là, ils sont embêtés parce que, pour eux, alors c'est de là qu'ils commencent à devenir très agressifs en disant, mais ce ne sont plus des opinions, ce sont des délits. Et alors, il y avait une affiche à Paris il y a 10 ou 15 ans. On voyait un jeune noir qui disait « Il y a des opinions qui sont des délits, par exemple le racisme. » On voyait le même jeune noir qui se bouchait le nez, il disait « Il y a des opinions qui sentent mauvais. » Et ça, c'est typique de la pensée totalitaire. C'est-à-dire qu'au lieu de... On jette l'anathème au lieu de chercher à démontrer de manière rationnelle que l'interlocuteur se trompe, qu'il a fait fausse route. Et là, c'est l'anathème, d'où les violences, les insultes. Alors, vous commencez à mieux comprendre ce qui vous est arrivé, en fin de compte, Jean-Luc. Vous vous êtes opposé à un courant de fond de l'état profond, et on a voulu vous briser, et on n'y est pas parvenu, d'ailleurs. Mais on a voulu vous briser, et c'est une évidence. Et c'est ce qui est arrivé à votre ami, d'ailleurs, dont vous parliez, qui était maître de convention, qui a été révoqué pour des raisons complètement saugrenues.
Bien sûr, bien sûr. Un point, je ne vais pas du tout revenir là-dessus. Simplement, il y a deux aspects dans, effectivement, l'acharnement dont j'ai fait l'objet. Il y a un aspect idéologique, effectivement, avec ce fond effectivement d'une université qui se pense comme effectivement un clergé de substitution, porteur d'un messianisme de substitution, et qui est réaffleure dans ce type d'affaires. Donc il y a le, on revient à ce que nous disions hier, Olivier, il y a l'élément d'intérêt idéologique dans l'épuration nécessaire d'un collègue hérétique. Mais il y a aussi l'intérêt en termes de pouvoir, comme je le disais hier, ce qui est la dimension de cléricature, c'est aussi des intérêts, des privilèges.
Oui, ça c'est vrai. Ça.
La gauche, c'est ça, c'est le premier ordre du royaume.
Hein,
c'est
le premier ordre du royaume. Mais bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir et beaucoup d'avantages en nature. Énormément d'avantages en nature. Et parce que ces gens-là... Ils n'ont pas perdu le Nord quand ça les concerne.
Et puis il y a la libido dominandi.
Oui.
Bien sûr. Mais c'est évident. Alors, il y a un bobino qui doit passer un instant, et puis on va reprendre.
aider Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Alors, est-ce qu'il y a des questions d'auditeurs ?
Il y a une remarque d'un auditeur qui est la suivante. La République a fait de la France le pays de droit de l'autre.
Des droits de l'autre, oui.
Je lis textuellement.
Oui, bon, enfin bon, c'est ça que ça veut dire. Parce que
le pays de droit de l'autre. Et en vous écoutant, moi, j'avais quand même le sentiment que finalement, ce gnostico-millénarisme, c'est la culture de la mort, à la différence du christianisme, qui est la culture de la vie.
Enfin, ah ben ça, on le voit bien, on vient de le voir.
L'opposition est...
L'objectif de l'agno, du gnosticisme, c'est la disparition de la société.
Et le millénarisme, c'est la violence.
Et le millénarisme, c'est la destruction de la société existante au nom d'une autre qui débouchera sur un enfer.
Oui.
Donc, dans les deux cas, il s'agit de détruire. Dans les deux cas, il y a la grande révélation de tout ça. C'est que le monde où on vit est intolérable et qu'il faut absolument casser tout ce qui existe.
Alors, vous avez vu cette photo qui est parue dans la presse, où on voit dans une récente manifestation, ça doit être vers 2023-2024, une jeune fille qui est montée sur un feu rouge et qui porte une pancarte sur laquelle il est marqué ce que nous voulons, ce ne sont pas des fleurs, c'est tout brûlé. Voilà. Elle est donc, c'est une gnostico-millénariste.
Absolument.
D'ailleurs, on l'a vu à l'époque de mai 68, on l'a vu régulièrement, oui, bien sûr. Alors, il faut nous parler de l'ouvrage qui est en préparation, Jean-Louis.
Alors là, écoutez...
Quelques pistes quand même, que pour aller chez les
auditeurs. Il devait être rendu...
Alors, quel est son titre, déjà ?
Son titre sera probablement « Les religions mortifères ».
Ah !
Et son sous-titre sera probablement « Essai sur... » le caractère religieux du progressisme. La nature religieuse du progressisme, ou quelque chose de ce genre. Voilà, il prend la suite...
De tout ce qui a été écrit. Alors, il faut peut-être rappeler les titres précédents, quand même, que les étudiants, j'allais dire les auditeurs, puissent consulter. Il y a Le vrai génie du christianisme.
Alors, dans Le vrai génie du christianisme, Paris, paru chez Jean-Cyril Godefroy, en 2012, j'ai beaucoup développé la dimension religieuse, déjà énormément du progressisme, de l'antiracisme, etc. Mais en mettant davantage l'accent sur le millénarisme, non pas que je ne parle pas du tout de la gnose, mais je n'ai pas à ce moment-là du tout été au fond de ce qu'on peut en tirer de la gnose.
Et puis alors, il y a l'ouvrage que vous avez amené là, qui s'appelle « Les droits de l'homme contre le peuple ».
Oui, qui est paru en 2016,
qui est remarquable, qui se lit très facilement.
Je ne sais pas ce qu'il faut en
faire. Et qui a été vendu à de nombreux, à très nombreux exemplaires, d'ailleurs. Hein, ça a été un best-seller. Ensuite, il y a eu d'autres ouvrages.
Et il continue à se vendre.
Il continue à se vendre. Il y a eu d'autres ouvrages, notamment un très intéressant sur la peine de mort.
Alors, « Droite gauche », ça n'est pas fini.
Voilà, exactement.
On pourrait intituler aussi « Les religieux ».
Des grandes idéologies contemporaines. C'est ça. Oui, tout à fait. Oui.
La peine de mort, où je développe le thème de la théorie gnostico-millénariste, parce que ça, c'est un aspect dont on n'a pas parlé. Pour la gnose et le millénarisme sont différentes, mais elles s'associent sur énormément de points. Ils s'associent plus exactement sur énormément de points. Et dès le départ, ils ont un élément commun, c'est que pour eux, le mal n'existe pas dans l'homme, comme le dit le judaïsme ou le christianisme. Le mal est forcément extérieur à l'homme.
Oui.
Il est soit, pour le gnosticisme, c'est le malheur d'être.
C'est ça.
Le mal, c'est être. Être est un mal. Et c'est Cioran. Cioran est un grand gnostique. C'est un homme très sympathique, très grand écrivain, tout ce que vous voulez. C'est un grand gnostique, d'ailleurs, qui considérait que le fait d'avoir des enfants était une monstruosité.
Ah oui.
Il considérait que le terme de géniteur était le terme le plus obscène qu'il connaisse.
Ah oui, c'est lui qui dit ça.
Donc c'est pour la gnose, le mal vient du monde, de l'existence du monde, et de l'existence de l'être dans le monde. Et pour le millénarisme, le mal vient du fait que la société est mauvaise, mal faite, inégale. Et que dans les deux cas, pour la gnose, on supprime le mal en supprimant la vie, Et pour le millénarisme, on supprime le mal en rendant la société égalitaire, ultra-égalitaire. Et à ce moment-là, tout est censé s'arranger. Donc, dans les deux cas, si vous voulez, il y a l'idée que le criminel sera forcément innocent. C'est une le criminel est lui-même une victime innocente.
Une victime de la société.
Victime du monde ou victime de la société. Victime d'un monde mal fait ou d'une société mal faite. Et qu'il est avant tout une victime innocente. Et que c'est lui la vraie victime au procès pénal.
Oui, oui.
Et que la victime réelle, elle, il faut la gommer au maximum. Et il y a des pages, par exemple, dans le livre sur la peine de mort, je cite des passages de Robert Badinter, qui écrit lui-même qu'au procès de Troyes, il a essayé, il a réussi d'ailleurs, à ce qu'on parle essentiellement, il a fait venir Léauté, le grand criminologue Léauté, qui a fait un cours sur le problème de l'efficacité, de la non-efficacité de la peine de mort sur la criminalité. Et Badinter écrit, tout le jury prenait des notes, c'était merveilleux, on serait cru dans un amphithéâtre.
Ouais.
Et il ajoute, l'ombre du petit enfant assassiné dans le studio, au-dessus du bar, était oubliée de tout le monde. Elle était oubliée. C'est l'objectif, c'est d'oublier la vraie victime. Et j'ai démontré ça aussi avec le livre merveilleux de Victor Hugo et terrible, qui s'appelle Le dernier jour d'un condamné,
oui,
où la vraie victime, c'est le condamné à mort, et la victime réelle, eh bien, elle est gommée.
Oui, alors.
Elle est ignorée,
alors,
totalement, elle est gommée.
Comme vous l'avez dit très bien, d'ailleurs, très souvent, les gens qui écrivent contre la peine de mort postulent qu'au départ, il y a eu une erreur judiciaire, ce qui rend évidemment l'application de la peine de mort particulièrement odieuse. Mais on n'attire jamais l'attention du lecteur sur le crime abominable qui, parfois, a parfaitement justifié la peine de mort. Alors ça, c'est gommé, effectivement.
Oui, c'est gommé.
Parce que Victor Hugo, il part du principe qu'en fait, il était innocent. Soit parce qu'il y a eu une erreur judiciaire, soit parce que c'était très peu de choses.
Il le dit tout de suite.
Il le dit
parce que, en vérité, il a tué, et c'est un véritable assassinat.
Oui.
C'est un assassin. Mais ce garçon s'écrit lui-même « Oh, misérable loi, oh, misérables hommes ». Donc c'est de la faute des lois. Et c'est de la faute de la méchanceté du monde.
Et pourquoi a-t-il tué d'ailleurs dans le...
Mais ça n'est pas dit.
Ah oui, on ne sait jamais.
On ne sait pas. On sait simplement qu'il ajoute, et pourtant j'ai été pur.
Ah oui.
J'étais pur ouais. avant de tuer.
Ouais.
J'étais pur.
Ouais.
Donc je suis innocent. Je suis pur, j'étais pur, je reste pur. Je suis une victime des misérables lois et des misérables hommes. Donc la société mal faite et le monde mal fait.
Ah oui, c'est tout à fait frappant. Alors, le futur ouvrage que vous n'allez pas publier...
Chez l'artilleur.
L'artilleur, quel sera son nombre de pages? Quel sera sa... Il reprend les ouvrages précédents? Il fait une synthèse?
Il est en cours d'écriture, donc c'est un peu difficile.
Mais est-ce que c'est un gros livre ou c'est un petit livre?
J'eusse aimé que ce fût un petit livre, mais malheureusement... Malheureusement, il grossit au point que j'ai décidé d'en supprimer purement et simplement la deuxième partie que je réserve à un ouvrage ultérieur.
Oui, mais
parce que sinon, ce ne serait plus un gros livre, ce serait un dictionnaire.
mais alors, Jean-Luc, vous qui avez continué quand même vos enseignements dans un établissement que nous connaissons et qui est très intéressant, est-ce que vous avez l'occasion de parler aux étudiants éclairés de cet établissement et ouverts, eux, à la vérité? Est-ce que vous leur parlez des travaux comme ceux de Jean-Louis Harwell? Vous ouvrez leur esprit, vous leur expliquez. C'est très important d'expliquer le mécanisme qui est à l'œuvre depuis maintenant plusieurs siècles, quand même, pour qu'ils aient une vision, une perspective de l'évolution historique.
Oui, bien sûr. Alors, nous avons les ouvrages de Jean-Louis Harwell à la bibliothèque de l'ICEP. Nous en parlons souvent, j'en parle dans le cours de droit où je parle de l'approche, la critique de l'idéologie antipénale que fait Jean-Louis, qui d'ailleurs va en parler bientôt, je crois, auprès de l'excellent cercle droit et liberté.
Exactement. Pas exactement droit et liberté. C'est un cercle ami et
d'accord.
Dont le nom va me revenir.
Et donc, il y a tout un aspect évidemment propre aux disciplines juridiques qui est très important. Et le courage de Jean-Louis s'agissant de la peine de mort est pour moi vraiment admirable. Très peu de collègues ont ce courage qui est plus nécessaire que jamais. Sur le plan de l'histoire des idées politiques, qui est une autre des grandes spécialités de votre invité. Effectivement, j'aborde tout à fait dans mes cours sur la question l'origine de la gauche. Pour le dire en deux mots et rendre rapidement la parole à Jean-Louis, je suivrai ce que vous disiez, Olivier, sur la dénaturation. J'étais intéressé par votre exposé de la paratestostérone.
Et oui.
Parce qu'en fait, à mon sens, la gauche qui a d'ailleurs un nom terrible, hein, un gauchissement, on sait ce que c'est.
Ouais,
et en latin, on sait ce que veut dire sinistère. Voilà, la sinistra. Et effectivement, c'est une dénaturation très profondément à deux égards. Alors, il y a une dénaturation qui fait surtout l'objet de cette émission, qui est la dénaturation du christianisme. Les fameuses idées chrétiennes devenues folles, c'est tout à fait évident. Et c'est une dénaturation, effectivement, de la particularité du christianisme, qui est l'incarnation. Et donc le fait que, alors voilà, qu'il y a tant de conséquences, vrai Dieu et vrai homme, et donc royaume du ciel et royaume de la terre, et donc la laïcité au sens chrétien du terme, donc les deux dimensions, qui fait que l'Église reste très ferme théologiquement, tout en laissant beaucoup de liberté politique et de liberté scientifique, on ne le dit pas assez. Et cette dénaturation, c'est-à-dire ce refus de l'incarnation, c'est effectivement ce qui nous a été ici exposé, qui est un des aspects essentiels du gnosticisme. Dans l'incarnation, il y a aussi l'incarnation institutionnelle, qui est quelque chose de très important, puisque l'homme est un animal institutionnel d'une certaine façon. Et refuser l'incarnation, c'est refuser l'institution aussi. Mmh. Et c'est à ce moment-là que, effectivement, la dimension prophétique du christianisme et de l'hébraïsme réapparaît à travers les hérésies, à travers le puritanisme, à travers les utopies également. Et la deuxième dénaturation, parce qu'à mon avis, il y en a deux, et elle permet d'ailleurs de limiter, je dirais, la critique de ceux qui disent au fond la gauche est une pure création du christianisme.
C'est une erreur. C'était l'erreur de la nouvelle droite en particulier.
Alors c'était notamment effectivement la simplification excessive qu'il y avait surtout aux origines de la nouvelle droite. Alors que, et c'est la seconde dénaturation par laquelle je voudrais terminer mon intervention, c'est que l'Antiquité, donc bien avant le christianisme, nous montre déjà une forme de progressisme, si l'on veut une gauche, essentiellement à travers les courants hellénistiques.
Oui.
Trois grands courants hellénistiques furent le cynisme, l'épicurisme et le stoïcisme, sont tous les trois caractérisés par ce qui est l'essentiel du progressisme contemporain, c'est-à-dire l'individualisme et le cosmopolitisme. Dans la mesure où il s'agit d'un individu rationnel qui est partout le même. Et chez Diogène, le père des cyniques, il y a cette idée qu'il faut se débarrasser du vêtement, c'est-à-dire se débarrasser de la culture et revenir à la nature. Et là, il y a une profonde en fait, dénaturation de la réalité de l'identité humaine, de notre définition anthropologique. L'homme est par nature un être
de culture.
Et cette fonction culturelle qui est propre à l'homme, qui est donc une fonction qui ajoute de l'artefact, qui ajoute de l'artifice, l'ensemble des artifices formant ce qu'on appelle la culture, cette fonction organique, en fait, qu'est la culture pour l'homme, elle est dans ses courants déjà, vous voyez, bien avant le christianisme, elle est en fait isolée. Elle est déconnectée de la réalité de la nature sociale de l'homme. Et c'est une fonction culturelle qui, au fond, va totalement s'isoler dans un solipsisme et proposer déjà l'utopie individualiste coupée de la société, l'utopie cosmopolite coupée des nations. Et on voit donc que c'est une dénaturation, ici, je dirais, de la culture. C'est une pathologie de la culture. Donc, je crois que vous avez vraiment employé le bon terme, qui est la dénaturation.
Alors, j'ai observé une analogie entre certaines élucubrations d'extrême gauche et ce qu'on pourrait appeler les troubles mentaux. Je retrouve la perte du sens des proportions, l'excès en tout, la violence incontrôlable, la méchanceté foncière et la volonté de dénaturer ce qui est la réalité. Et de voir toujours le mauvais côté des choses. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Je crois qu'il y a des questions d'auditeurs.
Il y a une remarque d'un auditeur qui nous dit « Heureux d'entendre Jean-Louis Harwell, trop rare sur les ondes, nous rappeler les origines profondes du masochisme ambiant partout dans l'Occident post-chrétien et de constater que la veine créatrice continue. »
Merci à lui.
Mais parce que beaucoup de gens pensent dans des journaux comme Le Figaro, bon, qui sont des journaux de droite modérée, que le socialisme a fait son temps, que les grandes idéologies, maintenant, c'est terminé parce que l'échec est tellement patent, des millions de morts, la ruine entière. Regardez Cuba. Cuba était prospère. Bon, Batista, le dictateur, on le critiquait, mais enfin, Cuba, c'était une sorte de Monaco avant l'heure, hein. À l'époque, il y avait des casinos, il y avait des danseuses, il y avait des belles voitures, il y avait de l'argent qui coulait à flot. Et alors, quand on demande aux Cubains « Pourquoi avez-vous fait cette révolution ?» Ils disent « Il y avait trop de riches. » Ben oui, mais maintenant, il n'y a plus que des pauvres. Et donc, cette révolution, elle n'a pas apporté du tout le paradis. Elle a apporté un État odieux qui martyrise sa population, une clique au pouvoir qui est milliardaire, la famille Castro. Il y a un commissaire politique pour 10 habitants. Les gens vivent sous le seuil de pauvreté, c'est la misère noire, et ça fait 60 ans que ça dure, ou 70 ans. En quoi est-ce que c'est un modèle? Alors tout le monde dit, devant des anti-modèles pareils, il y a plus de gens qui croient aux vertus du communisme. Pas du tout, les dernières élections nous montrent que jamais l'extrême-gauche n'a été aussi dangereuse et puissante. Avec beaucoup de grandes villes emportées par des gens qui sont... Alors, entre l'écologisme fanatique et l'extrême-gauche, il y a des liens, d'ailleurs. Parce que c'est le gnostico-millénarisme, c'est aussi l'homme est mauvais et il faut chasser l'homme de la terre. La terre est bonne. Alors, en réalité, quand vous opposez des arguments rationnels, mais vous dites, regardez, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la proportion de CO2 dans l'atmosphère en pourcentage? Les gens refusent de répondre. Et refusent de répondre. Soit parce qu'ils ne savent pas, alors ils croient que c'est 41%. Voilà. Alors c'est grotesque, évidemment. Je dis, on serait déjà mort depuis longtemps si c'était 41%. Et quand on leur dit, mais combien alors? Ah ben non, écoutez, j'en sais rien, vous m'embêtez avec vos questions. Voilà. En fait, ils ne veulent pas savoir.
C'est ce qui voudrait dire que finalement, c'est le sentiment de haine
qui l'emporte. Exactement.
Sur la volonté de
connaître et de comprendre.
Et de savoir. Ouais.
Parce que moi, je peux faire le procès de l'homme en disant qu'effectivement, il a endommagé l'environnement, il a contribué certainement, d'une certaine manière, dans l'hémisphère nord, à réchauffer le climat par des îlots de chaleur, la déforestation, l'albédo des sols, l'artificialisation des sols, les usines, les plastiques, oui. Mais c'est multifactoriel. Les grandes forces, ce n'est pas l'homme. Les grandes forces, c'est le soleil. On a découvert récemment que Saturne et Jupiter avaient une influence à distance sur le soleil et qui changeaient d'activité en fonction de ces planètes. Mais un jour, vous allez voir, si ça continue, les folies collectives continuent, on va venir nous dire qu'on va voter une loi pour sauver le système solaire ou la galaxie. La galaxie est en péril, le Parlement doit prendre une loi pour sauver la galaxie. Mais au train où vont les choses, ça va arriver.
Pourquoi pas?
Puisque l'homme se prend pour Dieu, désormais. Mmh. C'est absolument inimaginable. C'est un asile à ciel ouvert. Sauf que, alors, on a reçu dans ce studio un collègue, un mathématicien, professeur Bozami, Bernard Bozami, qui a écrit un livre sur le nouvel obscurantisme. Alors il dit, oui, mais c'est pas bien grave, il y a des périodes d'obscurantisme, ça va durer 1000 ans, il faut prendre notre mal en patience. Bon, dans 1000 ans, on sera pas tout jeune, hein, quand même, je sais pas si le studio existera encore ici. Et puis en attendant, il faut créer des îlots de stabilité. Mais moi, je pense qu'il se trompe, il n'y a pas d'îlots de stabilité. Quand vous avez les Khmers rouges qui arrivent, il n'y a pas d'îlots de stabilité. Vous arrivez les gardiens de la Révolution, il n'y a pas d'îlots de stabilité. Vous voyez arriver les sbires du KGB, il n'y a pas d'îlot, ou de la Gestapo, il n'y a pas d'îlot de stabilité.
Il peut y en avoir dans une société libérale.
Oui. Alors vous aurez.
Qui les tolère, qui les accepte.
Si vous arrivez à émigrer en Suisse ou aux États-Unis ou en Angleterre, il y aura peut-être encore des îles de stabilité. Mais si LFI s'empare.
Pour combien de temps ?
Et pour combien de temps ? Mais si LFI s'empare, comme le souhaite Jean-Luc Mélenchon, qui porte d'ailleurs le même prénom que vous, tiens, je remarque cette observation en passant. Jean-Luc Mélenchon dit on va prendre le pouvoir par les urnes ou par la force ? Mais ça veut dire que c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'il rêve de faire exactement ce qu'ont fait les tortionnaires communistes tout au long du XXe siècle.
Exactement.
Et dans l'indifférence générale. Et ceux qui s'y opposent, on les criminalise. Enfin, c'est un asile de fous.
Oui. Est-ce que je peux dire une toute petite chose ? Pour revenir à propos de la conférence, une petite chose vraiment. La conférence dont Jean-Luc avait la gentillesse de parler tout à l'heure, que je dois prononcer sur l'idéologie antipénale, c'est devant le cercle Affectio Societatis.
Ah oui, voilà. C'est un cercle de spécialistes de droit des sociétés, alors. Et bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations d'auditeurs ?
Parce que là, on vient de recevoir un message.
Ah.
Alors. Bonsoir. Ne croyez-vous pas que l'effondrement des valeurs religieuses chrétiennes depuis plus de 200 ans sûrement.
200 ans, oui. Oui.
Ont conduit le monde à la précarité grâce aux valeurs d'extrême gauche ?
Ben ça, ça paraît évident, oui. Ah ben ça me paraît... Je sais pas, Jean-Luc, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, c'est évident.
C'est le livre de Jean-Louis Harouët sur le vrai génie du christianisme.
Évidemment.
Hein, qui explique que finalement...
Peut-être le lien entre, entre le totalitarisme doux dans lequel malheureusement s'enfonce une partie de l'Occident et spécialement la France... et les projets de totalitarisme dur auxquels vous faisiez référence, Olivier, chez Jean-Luc Mélenchon, le rapport est précisément ce que nous fait observer Jean-Louis Harouël, c'est-à-dire le fait qu'est à l'œuvre une idéologie effectivement qui est un substitut de religion, qui donc est persuadée d'avoir reçu une forme de révélation.
C'est ça. Voilà.
Il faudra peut-être y revenir. Parce que cette forme de révélation, alors chez les tenants au centre du système, par exemple en France, les milieux macroniens, ça prend la forme de l'épistocratie, comme on dit de façon un peu cuistre, c'est-à-dire l'idée que certains ont reçu une révélation et qu'ils sont donc qualifiés, contrairement au grand nombre et notamment au peuple, pour... assurer une direction, en fait, discrètement autoritaire, au nom de ces valeurs révélées,
oui,
au fond, qui ont une nature religieuse. Et lorsque ça ne fonctionne pas, on passe effectivement à la violence, puisque fondamentalement, cette idéologie qui est largement abstraite, décontextualisée, désinstitutionnalisée et surtout déshumanisée parce qu'elle est, comme vous l'avez dit, dénaturée, va chercher à reconfigurer de façon violente, au nom de cette révélation, l'humanité. C'est l'homme nouveau de tous les totalitarismes qui a pris des dimensions qu'on a oubliées aujourd'hui en Occident dans le stalinisme ou dans le maoïsme, et dont le modèle était déjà la Révolution française, évidemment.
Évidemment.
Donc en permanence, l'élément religieux se révèle.
C'était Yvan Blot qui disait « L'homme est un être religieux par nature ». Donc quand on chasse la religion dominante, le christianisme, on laisse la place à d'autres religions qui, elles, peuvent être de très mauvaise qualité. Alors ça peut être la religion de la consommation, ça peut être la religion de la performance, ça peut être la religion du gnostico-millénarisme. Mais l'homme est un être qui a besoin de croyance. C'est d'ailleurs, je crois, Gustave Le Bon qui dit « L'homme a plus soif de croyance que de l'homme a plus soif de certitude que de vérité. » Et c'est très important que la foi religieuse donne des certitudes. D'ailleurs, beaucoup de communistes ont été sincères. Beaucoup de nationaux-socialistes ont été sincères. Il y a eu, par exemple, une interview qui a été... donné vers 1965 par le général Der Spiegel, de l'amiral Dönitz, qui est le dernier dirigeant du Troisième Reich, puisqu'il avait été, il avait pris la suite d'Adolf Hitler. Il a immédiatement été, bien sûr, traduit dans le tribunal de Nuremberg et condamné à 10 ans, ou 10 ou 15 ans de prison, je ne sais pas. Et alors, on lui dit, alors, amiral, qu'est-ce que vous pensez de tout, ce qui est de tout ça? Alors, voilà, l'extermination, les camps, l'horreur, tout ça. Est-ce que vous regrettez? Mais il dit, comment ça? Attendez, de quoi parlez-vous? Quoi? Je ne regrette absolument rien. Mon seul regret, c'est que nous n'ayons pas réussi, voyons. Parce que vous avez maintenant un État totalement soumis, colonisé, sous l'empire, emprise des Juifs, apatrides et des capitalistes. C'est monstrueux, mais moi, j'ai regard d'espoir, disait-il plutôt. J'espère bien que notre grand projet reviendra et que là, nous l'emporterons définitivement. Alors évidemment, journaliste absolument accablé. Sauf qu'en 1965, il y avait encore une certaine forme de liberté d'expression. Donc on avait dit, bah voilà, le public jugera. Au moins, on laissait les gens... aujourd'hui, on ne pourrait même plus laisser passer un truc pareil, évidemment. Mais en fait, on ne peut pas remettre en question des valeurs religieuses parce que les gens s'identifient à elles. C'est la théorie que j'appelle du moi périphérique. Quand vous avez cru à quelque chose toute votre vie, par exemple le réchauffement climatique ou le rôle de l'homme dans le réchauffement climatique... si au bout de 30 ans, on finit par vous démontrer que vous êtes complètement trompé, vous passez pour un parfait imbécile. Et ça, c'est insupportable. C'est pour ça que les gens qui étaient communistes, sauf quelques exceptions, sont restés communistes. Les gens qui étaient nazis sont restés nazis. Simplement, bah, ils ne la ramenaient plus. Voilà, ils préféraient garder ça pour eux. Mais dans leur fort intérieur, ils pensaient qu'ils avaient raison. C'est la théorie du moi périphérique. Ça, je suis persuadé que ça joue beaucoup. Qu'on a beau, c'est ce que dit le professeur Bozami, il dit, vous pouvez mettre un graphe qui monte ou un graphe qui descend pour le montrer qu'ils sont des parfaits crétins, qu'ils n'ont rien compris au climat, ça ne changera rien à leurs convictions. Ils resteront acharnés en disant le GIEC, et puis voilà, bon, il n'y a rien à faire. C'est là, à moins qu'il y ait une révélation soudaine, je ne sais pas, ils rencontrent comme Saint Paul sur le chemin de Damas... Brusquement, la Vierge leur apparaît, le Christ leur apparaît, Dieu leur apparaît. Alors là, ils changent. Mais c'est très difficile.
Mais finalement, ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est sa capacité à penser dans l'abstrait.
Oui.
Donc, les hommes ont forcément une dimension spirituelle.
Bah, évidemment qu'ils les distinguent des animaux.
Et à partir de là...
C'est sûr que mon chat, il risque pas de tomber dans le gosticomillénarisme, parce que les droits de la souris, il les connaît pas du tout. Et la souris, elle a qu'un seul droit, c'est de se faire dévorer par le chat. Il en mange une tous les jours, voilà, en moyenne, qui va te chercher dans le jardin. Faut dire que je suis un peu pervers moi-même, parce que je jette des croûtes de fromage dans le jardin pour nourrir les souris.
Pour attirer les souris.
Et après, elles sont d'excellente qualité, les souris, ce qui me fait des économies de pâté pour chat. On a les plus belles souris de la région. Et on a un chat superbe. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est en tout cas intéressant de parler de tout ça, parce qu'on avance. En tout cas, il faut travailler sur cette étude anglaise qui montre que la pluralité des opinions s'accroît au fur et à mesure qu'on va vers la droite. Et il faut enseigner à nos étudiants tout cela. Moi, je m'efforce de le faire à la faculté en racontant des anecdotes. Mais je pense que vous faites pareil, Jean-Luc aussi.
Pardon.
Non, je vous en prie. J'ai juste une question qui est la suivante. C'est, dans ce cas, est-ce qu'il faut rechristianiser le pays, faire comme en Russie, finalement, pour sortir du socialisme, de la haine de la gauche? Est-ce que le seul remède, c'est rechristianiser la société?
À mon sens, il faut soit la rechristianiser, ce qui est peut-être difficile, parce qu'il faut également les clercs pour le faire.
Et puis il faut que les gens y croient.
Soit l'aristotéliser.
Oui, oui.
Absolument. Bon. Absolument. Il faut l'aristotéliser. Ce qui ramènera à la plus grande tradition du catholicisme par la même occasion. Je voudrais peut-être introduire un dernier élément. Je tentais de l'annoncer en parlant d'épistocratie. Je voudrais dire un dernier mot sur le fait que cette dimension en fait irrationnelle dont nous a parlé Jean-Louis Harwell à l'intérieur du progressisme. Elle fonctionne comme une composante qui a mis mal à l'aise et qui a mis à mal la gauche elle-même. La gauche des Lumières, aujourd'hui, c'est elle qui a cherché, grâce à ses positions dans l'université, à résister au wokisme. Le colloque qui avait été fait à la Sorbonne, le courageux ouvrage dont il a été beaucoup question sur l'obscurantisme woke, a été fait par des gens dont une grande partie viennent de la gauche, mais une gauche qui cherche à rester fidèle aux Lumières et qui s'aperçoit que la raison elle-même est dévorée par l'élément irrationnel. Donc c'est un moment intéressant parce que nous arrivons à un moment, je dirais, d'éclaircissement sur ce qu'est au fond ce progressisme, avec ce divorce entre une gauche qui cherche à rester rationnelle et la nouvelle gauche. Et aujourd'hui, je voudrais en terminer par là, les extraordinaires aveux que viennent de faire deux figures de la gauche radicale en France, que sont messieurs Geoffroy de la Gannerie et monsieur Edwy Plenel. Geoffroy de la Gannerie et Edwy Plenel ont sorti en même temps, au mois de mars, deux ouvrages. L'ouvrage de Geoffroy de la Gannerie s'intitule « L'âme noire de la démocratie ». Et l'ouvrage d'Edwy Plenel s'intitule, c'est extraordinaire, « La démocratie n'est pas le vote ». C'est-à-dire, ce sont des gens qui nous annoncent, en prévision de l'alternance politique éventuelle de 2027, qui nous annoncent qu'il ne faudra pas respecter le vote. Il ne faudra pas respecter la démocratie, pour les raisons que nous a indiquées Jean-Louis Harwell. C'est-à-dire que leurs valeurs sont révélées, ils les possèdent, elles ne peuvent pas faire l'objet d'une validation par le peuple, et au nom de cette révélation, ils auront le droit de défaire le suffrage.
Oui, exactement. Et ça correspond à quelque chose qu'on observe. On continue dans les amphithéâtres à parler de démocratie, de souveraineté du peuple, alors qu'en réalité, le mot démocratie a complètement changé de sens depuis 20 ans. La démocratie, maintenant, c'est le règne des droits de l'homme défini par le juge. C'est ça la démocratie.
Oui, c'est exactement ça. C'est ça.
Et par un juge prêtre.
Ouais.
Et Jacques Rinen, vous vous en souvenez, avait écrit des pages magnifiques sur la prêtrise du juge. Le juge prêtre, c'est ça le vrai démocrate maintenant.
Oui, c'est-à-dire que à cette nouvelle démocratie, on oppose désormais ce qui serait normalement la vraie démocratie, qui est le populisme. Parce que finalement, s'il y a une volonté du peuple, quand le peuple s'exprime, c'est une sorte de divinité laïque, un peu comme en Suisse, où le peuple souverain décide. D'ailleurs, c'est pour ça que les Suisses appellent leur peuple souverain. Eux, ils sont encore dans cette vieille idée que la majorité, plus elle est forte, plus elle exprime la volonté du peuple. Ce qui est une simplification un peu abusive, mais partout pas complètement absurde. Et pour ça, pour les démocrates d'aujourd'hui, c'est une abomination, parce que c'est du populisme. Alors le chef des populistes, celui que Patrice Pinozzi appelle le chef de la bande, le chef de la bande, le cerveau de la bande, il dit c'est le cerveau de la bande, c'est Viktor Orban. Viktor Orban est pire que Trump, dit-il dans Dalloz, parce que c'est le cerveau de la bande. C'est celui-là qu'il faudra abattre en premier. C'est le cerveau de la bande. Alors c'est vrai que par moments, on se demande si Trump n'est pas un peu écervelé. Oui. En ce moment, surtout avec l'Iran, là, il s'est un peu en partie dans une galère. Mais pour eux, le fait que les Hongrois, dans leur très grande majorité, soutiennent Viktor Orban, ça ne compte même pas. Ça n'a pas d'importance. Parce que la démocratie, pour lui, c'est une valeur religieuse qui transcende la volonté du peuple. Donc on en arrive exactement à cette religion dont on a parlé, chers auditeurs, tout pendant une heure et demie encore. Je pense qu'on a fait quand même le tour de la question. Merci Jean-Luc Cornel de Boissaison d'avoir participé à ces deux émissions. Merci infiniment Jean-Louis Harwell d'avoir participé. Merci à Bérédice et à Marc de Stahl, qui on n'a pas beaucoup entendu ce soir. Et bientôt, une prochaine émission vous attend au mois de mai. Je ne sais pas encore quel sera le thème, d'ailleurs, il faut qu'on en parle. À bientôt, au revoir. Au revoir.
Vous venez d'entendre le Libre Journal du Droit et des Libertés dirigé par Olivier Tournafon, assisté de Bérénice, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 1er avril 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.